franceinter.fr.
Si on en vient à la revue de presse, vous commencez par un coup de gueule aujourd'hui qui nous concerne toutes ou tous.
Eh bien, toutes et tous, Marc, tant ce régime de la tyrannie, ou plus exactement, cette tyrannie du régime, sont insupportables. Hey, elle, glamour, grazia, s'exclame Nadia Dame sur un post publié par Slate.fr. Si vous nous lâchiez le cul, pardon, c'est elle qui le dit, et le ventre, et les cuisses, et les bras. Ras-le-bol, en effet, de ces magazines dits féminins qui, à chaque début d'été, comme d'autres font de façon horlogière leur une sur les francs Mac ou les prix de l'immobilier à Paris, nous font culpabiliser à mort. Quand les beaux jours arrivent, ils concentrent tous leurs efforts, écrit-elle, pour nous démontrer à nous, êtres utérins, que nous ne saurons pas descendre sur la plage cet été à moins de perdre du poids. Or, poursuit-elle, véhiculer le message qu'une femme doit changer d'apparence physique avant d'oser se prélasser sur la plage et d'être soumise au regard, masculin essentiellement, est d'une effroyable crétinerie et surtout d'une dangerosité sous-évaluée. Quand t'es une femme, tu passes le bac option, tous les ans se désole-t-elle. Nadia Dame souligne qu'au-delà de grignoter un peu plus à chaque fois l'estime de soi de chaque femme, cette injonction à la minceur peut aussi finir par poser des questions de santé publique. Est-ce que le but c'est d'être mince, voire maigre à tout prix, ou d'être en bonne santé? Et puis enfin, parce que la presse féminine n'est pas à une contradiction près, elle est capable d'afficher sur la même une les régimes minceurs et le nouveau mantra « Et si finalement, vous vous acceptiez comme vous êtes ?» Qui n'est rien d'autre en fait qu'une nouvelle injonction. Pas plus rassurante, car il faut être capable de jeter par-dessus bord des décennies de grossophobie. Bref, c'est l'été et partez finalement comme vous êtes. Enfin ça, c'est si vous avez de la chance de partir en vacances. Et c'est l'humanité, ce matin, l'humanité qui souligne avec justesse combien les vacances pour tous sont un droit à reconquérir, titre Le Quotidien. Car si 82% des cadres font leur bagage chaque année, un ouvrier sur trois seulement a les moyens de partir. Plus de 80 ans après 1936, la démocratisation du droit aux vacances reste une lutte à gagner, écrit Laurent Mouloud dans son édito.
On en vient, Hélène, au revirement du gouvernement sur la question fiscale, justement, à laquelle beaucoup de vos quotidiens s'intéressent ce matin.
La oups politique. C'est comme ça que Nicolas Bétou l'appelle à la une de l'opinion. Explication. Le chef de l'État exulte au soir du premier tour de la présidentielle. Eh bien, le second sera en retenue et solennité. Il nomme des ministres au CV peu compatibles avec la nouvelle exigence moralisatrice. Eh bien, il les évacue promptement. Enfin, des réformes fiscales promises sont à la journée. Eh bien, ce petit arrangement avec les grandes promesses est vite abandonné. Série donc de hoops politiques, appelée autrefois couac, ce qui donne d'ailleurs dans Libération Macron-Philippe tête à couac. Mais tout est bien qui finit bien, enfin pour l'opinion en tout cas. Nicolas Bétou se réjouit en effet qu'Emmanuel Macron n'ait mis que quelques jours pour analyser l'erreur commise et rectifier le tir. Même satisfaction au Figaro, Macron se ravise et rétablit les baisses d'impôts. Mais si les choses semblent remises en ordre, prévient Gaëtan de Capelle, ce cafouillage n'en constitue pas moins un avertissement sans frais. Eh bien oui, car au moment de donner le coup d'envoi des réformes, la main de l'exécutif a tremblé, relève également Françoise Fressos ce matin dans Le Monde.
Et vos journaux racontent justement la façon avec laquelle le président a corrigé le tir sur cette question fiscale.
Un épouvantail, un lieu et quelques noms. Alors dans la moiteur tropicale de ce dimanche 9 juillet, écrit Nathalie Segaud dans l'Opinion, Emmanuel Macron a tranché « il ne sera pas François Hollande ». Voilà pour la figure de l'épouvantail. Le spectre d'un retour aux années Hollande a été décisif, dit également Le Parisien. Le lieu maintenant, Aix-en-Provence, où se tenaient du 7 au 9 juillet les rencontres du même nom organisées par le Cercle des économistes. C'est là qu'ont été mal, très mal reçus le discours de politique générale du Premier ministre et son annonce du report des baisses d'impôts pour cause de comptes publics plus dégradés que prévu. Philippe Aguillon, conseil d'Emmanuel Macron pendant la campagne, fustige une grave erreur. Mathieu Lainé, patron et proche du président, qui se décrit lui-même comme le gardien de la révolution libérale, raconte dans le Figaro Écho comment il a alors beaucoup échangé avec Emmanuel Macron pour lui faire part de la défiance que ses annonces créaient. Il m'a rassuré, dès le vendredi, dit-il, qu'il le ferait. Alors Mathieu Lainé va jusqu'à tweeter son soulagement avant et après la volte-face. Dimanche, réunion de cadrage à l'Elysée, fin de l'histoire, enfin presque. Le Parisien nous en dévoile ce matin la suite, une partie de la suite si je puis dire, puisqu'il faut désormais trouver la façon de financer ces baisses d'impôts. L'État va se serrer la ceinture, manchette du quotidien. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, dévoile en exclusivité son plan pour économiser 4,5 milliards d'euros sur le budget de l'État. Effort sans précédent, souligne-t-il, et sans toucher aux effectifs. Avec détail sur les coups de rabot, ministère par ministère, 60 millions par exemple pour Matignon, 268 millions pour Bercy.
La réaction Jean-Marc Daniel, les libéraux sont déçus, les économistes libéraux sont déçus déjà.
Ils ont failli être déçus.
Libération disait, ils ont le blues déjà au bout de 2 mois de présidence Macron. Trop de saupoudrage, on comprend pas où il va. Vous faites partie des déçus de la présidence déjà?
Je suis pas encore déçu. En 2 mois, on n'a pas le temps d'être déçu. Ou alors j'aurais été déçu dès le lendemain matin. On est déçu tout de suite, on n'est pas déçu au bout de 2 mois. On l'est au bout de 2 jours ou de 2 ans. Mais effectivement, c'est qu'il y a d'inquiétant, encore une fois, pour reprendre l'échange qu'on a eu avant la revue de presse. Et je pense qu'il y avait un projet clair chez le ministre Macron, un projet assez cohérent. Et là, ça flotte. Et donc, comme tout ce qui... c'est quand c'est flou, il y a un loup. Et donc, on ne sait pas quel sera le type de loup auquel on va être confronté.
Mathieu Plane. Ouais,
je pense que la question est effectivement très, très politique. Et c'est de savoir comment il réussit à coordonner à la fois les mesures fiscales et ses engagements avec les engagements européens. On voit, il a eu une campagne aussi très pro-européenne sur sa remise en cause des règles budgétaires et il se retrouve aujourd'hui confronté à cette problématique des règles budgétaires, la nécessité de revenir rapidement en dessous des 3% et d'y rester. Or, les mesures fiscales, effectivement, les gens attendent un choc fiscal positif tout de suite. Sauf que le financement, on voit qu'il prend du temps. Réduire la dépense publique, c'est compliqué. On n'a pas eu la clarification là-dessus. Et donc, il y a des ajustements à faire. Et on voit que d'ailleurs, politiquement, on a certainement un Premier ministre et, on va dire, Bercy, qui est plutôt plus sur l'orthodoxie budgétaire. Et un Emmanuel Macron qui a fait quand même des promesses de campagne assez importantes du côté de la fiscalité. Et les gens attendent du pouvoir d'achat, de la baisse sur un certain nombre de mesures. Et là, on voit qu'on a des arbitrages qui sont pas extrêmement clairs et on risque de se retrouver assez confronté régulièrement à ce genre de problème. Tant qu'en tout cas, la trajectoire, ça paraît clarifier en termes de finances publiques.
À la suite et la fin de la revue de presse, Hélène Jouan, on en vient à l'affaire Grégory et cette exclusivité de nos confrères de l'Est républicain.
Marie-Ange Laroche, portrait pleine page à la une de l'Est républicain et cette citation, « Je n'ai jamais frappé Muriel ». Pour la première fois depuis 30 ans, la veuve de Bernard Laroche et la sœur de Muriel Boll, aujourd'hui écrouée, accordent une interview pour contrecarrer le témoignage du cousin, ce fameux cousin qui a relancé l'enquête, semble-t-il, puisque c'est lui qui a récemment affirmé que c'est sous la pression des coups portés par sa famille que la jeune Muriel était revenue sur ses premières déclarations aux gendarmes il y a donc 30 ans. « Je n'ai jamais frappé Muriel », affirme donc Marie-Ange Laroche, qui dit par ailleurs n'avoir jamais reparlé à sa sœur depuis ce fameux jour de novembre 1984. Marie-Ange Laroche qui a également écrit une lettre au président de la République pour dénoncer certaines dérives, dit-elle, dans l'actuelle relance de l'enquête sur la mort du petit garçon. Témoignage d'une femme qui, quoi qu'il en soit, est une victime parmi d'autres de cette terrible histoire. Elle dit le cauchemar qui reprend à chaque nouvel épisode de l'enquête. Elle dit l'acharnement pour les détruire, le fait qu'on appelle son mari Laroche, comme un chien, dit-elle, alors qu'il a été baptisé, comme tout le monde, il s'appelle Bernard Laroche. Elle dit sa vie et celle de ses enfants gâchés.